neutralisation des réseaux qui nous intéressent.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You fellow with your fellows get cleaned like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. Who you? What are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir, il est le il est 19h passé de 4 minutes, il est effectivement le mercredi 19 février et c'est l'heure du Canu Info. Et qu'est-ce qu'on a ce soir ?
Eh bien au sommaire, nous avons au moins une bonne nouvelle, Serge Dassault est en garde à vue.
Et après on continue pas que avec les bonnes nouvelles, un camp de Rome brûle à Marseille.
Une nouvelle loi sur la géolocalisation suivra.
En Ukraine, ça chauffe.
Et en Turquie, on parlera de la censure du net.
On fera une sorte de petite rubrique bande de cons, le GIPN oublie 20 000 euros.
Et on parlera de braquage en tout genre avant.
La chronique, il faut que ça se sache.
Eh ben, une bonne nouvelle, ce matin, Serge Dassault a été placé en garde à vue. Et oui, une fois n'est pas coutume, il y a de temps en temps quelques Richards qui passent par le communico et pas juste pour porter plainte. Donc Serge Dassault, il a 88 ans, il est sénateur UMP de l'Essonne, il est en garde à vue à Nanterre dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour abus de biens sociaux, corruption et achat de votes. Donc là, comme on est proche des élections municipales, ça fait doucement rigoler l'achat de vote. Mais voilà. Donc il pourrait être déféré devant le juge et mis en examen. Et il est entendu par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales sur des faits qui se seraient déroulés à Corbeil-Essonne, commune dont il a été maire pendant 14 ans, de 1995 à 2009. Et son fils Olivier, qui est aussi à l'UMP, mais député de l'Oise, a publié en fin d'après-midi dans Le Monde une tribune pour soutenir son père. D'ailleurs, dedans, c'est assez touchant, il l'appelle « mon papa, nanana
». Mon papa à moi.
Qui se conclut avec ces mots très modestes, je vous les lis. « La vérité lavera les souillures des mensonges, mais n'oublieront pas, je n'oublierai pas, comme ils ont tenté d'abattre un honnête homme qui n'a jamais eu qu'une seule volonté, celle de servir sa ville et son pays. » Aïe, 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 ils mentent comme des arracheurs dedans, quoi. C'est assez fou. Donc ça, c'était une déclaration d'Olivier Dassault. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un peu les sortes de tenants et aboutissants de cette affaire. C'est pas tout évident. Donc, les enquêteurs qui sont sous la direction des magistrats Serge Tourner et Guillaume Daef sont persuadés d'avoir mis au jour un système d'achat de votes échafaudé par Serge Dassault à son profit et à celui de Jean-Pierre Bechter, qui a été son successeur à la mairie de Corbeil et qui a été également mise en examen pour recel d'achat de votes. L'affaire à tiroir mêle donc des dons d'argent importants en espèces, issus de sa fortune personnelle, puisque octroyés volontairement donc par la voite l'avionneur à des proches, et notamment 2 millions d'euros à Younes Bounouara, qui est réputé agent électoral de Dassault depuis 1995. Et il a aussi financé des permis de conduire et de nombreux projets, dont la liste des bénéficiaires a été saisie dans sa résidence secondaire à Corbeil. Donc, il faut quand même rappeler que Dassault, c'est la cinquième fortune de France. C'est quand même des gens qui ont beaucoup, 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 beaucoup de sous. Et donc, le type, là, Younes Bounouara a été aussi mis en examen dans ce dossier pour parce que c'est louche le fait qu'il ait reçu ces 2 millions d'euros et les Serge Dassault et lui sont également poursuivis pour dans une autre histoire pour tentative d'homicide. Et les deux ont toujours nié que les 2 millions d'euros aient pu servir à acheter des voix. Donc Bounouara se défend en disant que lui, il aurait investi l'argent pour construire et exploiter et commercialiser une source d'eau minérale dans la région de Tizi Ouzou en Kabylie. Et donc ces 2 millions auraient servi à ça et non pour, pour soutenir l'élection de Serge Dassault. Et il n'y a pas que Bounouara. Les enquêteurs s'intéressent surtout au montage financier établi à partir du Liban. Donc en fait, donc pour filer la thune, Serge Dassault l'a fait passer par un compte au Liban. Du coup, ils doivent se justifier là-dessus. Et ils doivent aussi se justifier parce qu'ils ont donné de la thune à Mamadou Kébé et un prétendu corrupteur d'électeurs en 2009 du quartier sensible des Tartérets. Donc à Corbeil, secteur qui vote pourtant à droite lors des élections locales depuis 1995. Et donc lui, il aurait perçu 1,2 million d'euros. Et Serge Dassault s'est toujours défendu en affirmant qu'il faisait l'objet de rackets et de menaces de la part de ce dernier. Et donc Kébé est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des menaces réitérées contre Serge Dassault, son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Donc tous ont reçu à partir de téléphones lui appartenant des milliers d'appels et de SMS leur ordonnant de faire pression sur Serge Dassault, qui a par ailleurs apparemment reçu des cercueils miniatures dans ses boîtes aux lettres. Et alors ça, je dis ce détail parce que ça m'a beaucoup amusé. J'aurais aimé pouvoir lui envoyer des petits cercueils miniatures dans sa boîte aux lettres. Donc et d'ailleurs donc dans suite à l'enquête là, il y aura apparemment une confrontation entre Mamadou et Kébé et Serge Dassault qui devrait se dérouler durant l'audition. Donc l'affaire, loin de se terminer, devrait encore connaître moult rebondissements.
Et on va à Marseille à présent où un camp de Roms a brûlé dimanche 16 février. C'est un bidonville qui était situé entre le port et la 55. Il abritait 45 personnes Roms. Il a été dévasté par le feu aux alentours de 5h du matin. Bon alors déjà, il n'y a aucune victime qui est à déplorer, c'est un peu le premier truc à dire. Et voilà, ce petit bidonville de Cap Pinède a été totalement détruit. Incendie accidentel d'après la police, mais criminel d'après les Roms qui parlent d'un bidon d'essence qui aurait été jeté depuis l'autoroute. Il faut savoir que le lieu avait déjà été évacué du coup à plusieurs reprises, il a été plusieurs fois squatté, et il avait déjà été évacué après un autre incendie accidentel. Il y a un autre bidonville d'ailleurs qui est situé de l'autre côté de la voie ferrée qui doit être évacué la semaine prochaine. En fait, il y a quelques jours, la ville de Marseille a assigné le préfet en justice pour que l'État procède à l'évacuation immédiate, et ce juste avant les municipales, de plusieurs bidonvilles installés sur le territoire marseillais. Du coup, forcément, les soupçons vont bon train. Alors déjà, comment s'est déclenché l'incendie? D'ailleurs, est-ce qu'on le saura vraiment un jour? Ce type d'événement n'est pas du tout exceptionnel et il n'a rien de nouveau. Ces populations roms, du coup, montrées du doigt et marginalisées, étant bien souvent obligées de s'installer dans des lieux vétustes ou des terrains aux installations électriques précaires. Et il est quand même pas rare que déjà il y ait des incendies qui se déclarent de cette manière. Mais la médiatisation de ces incendies est de plus en plus courante. Allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'on parle beaucoup plus des roms qu'avant. Et il y a un autre truc qui est de plus en plus courant, c'est justement les départs d'incendies volontaires, donc des attaques directes à l'encontre des familles qui se sont multipliées, décomplexées sans doute par la généralisation d'un discours xénophobe à leur encontre, tant dans les bouches des politiques, des médias mainstream, que de l'ensemble des habitants de ce pays qu'on appelle la France.
Et il faut savoir que Marseille, c'est une ville où des maires d'arrondissement socialistes organisent des manifestations contre les Roms qui sont dans leurs arrondissements.
Un grand fief.
Alors, l'Assemblée nationale a voté une loi concernant la géolocalisation juridique. Alors, l'idée de départ de cette loi était de combler un vide juridique, parce qu'aujourd'hui, les lois sont floues concernant l'utilisation de la géolocalisation par la police et la justice. On sait par exemple que les flics ont un accès quasi illimité aux fadettes, Alors les FADET, c'est l'abréviation pour facture détaillée. Ça comporte en gros le numéro de téléphone, la date et la durée des appels entrant et sortant. Ça, les FADET, ça a été médiatisé sur les écoutes, sur la surveillance d'un journaliste du Monde ou par rapport à l'affaire Woerth et Bettencourt, si je ne me trompe pas.
T'as pas l'air.
Alors, pour la géolocalisation, pour parler un peu plus de ça, il y a plusieurs possibilités pour les flics. Alors, il s'agit soit de pister un téléphone portable grâce aux antennes relais qui arrivent à déterminer de manière assez précise où vous êtes. Cette opération peut se faire soit en temps réel, ou alors peut-être demander aux opérateurs a posteriori. Ou alors, ils ont la possibilité de placer un traceur GPS sur une voiture, par exemple, afin de savoir, de connaître vos déplacements, tout ça. En chiffres, en 2012, 5500 balises GPS ont été posées par les flics et plus de 20 000 géolocalisations de portables ont été demandées, le tout utilisé sans réel cadre et sans aucun organe de contrôle, bien évidemment. Bon, bah, en général, on sait que ça arrange quand même plutôt bien les pouvoirs publics et les flics que tout ça ne soit pas très encadré et contrôlé. Ça permet aux flics de faire un peu ce qu'ils veulent. Sauf que, une cour de cassation, a annulé le 22 octobre 2013 deux dossiers dans des affaires de stup et de terrorisme. En gros, ils ont dit que la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge.
Waouh,
incroyable.
Ouais, ils ont toujours des phrases. Je veux juste dire que eux, ils considèrent que la géolocalisation doit donc être faite sous le contrôle d'un juge, comme un peu les écoutes, en gros. À partir de là, le législateur s'est donc dit qu'il était urgent de légiférer, sinon il risquait de voir tout un tas de procédures tomber à l'eau et des flics pas très contents derrière.
Tu m'étonnes.
Alors, ce que prévoit le texte initial du gouvernement, c'est la possibilité d'utiliser la géolocalisation pour toute infraction punie d'au moins 3 ans de prison. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est grave. Ça veut dire que, par exemple, un vol simple, sans violence, pas en réunion, rien, est compris dedans, puisque puni de jusqu'à 3 ans de prison.
Donc tout.
Ouais, c'est ça. À partir de là, ça regroupe quand même tout un tas de trucs, quoi. La durée maximale de la géolocalisation pour une enquête préliminaire. Alors, une enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sous le contrôle d'un juge. C'est-à-dire que c'est les flics qui suspectent quelque chose et qui enquêtent sur des gens. Cette durée maximale ne pourra pas excéder 15 jours. Au-delà, ce sera à un juge de se prononcer. Et la possibilité pour un OPJ, un officier de la police judiciaire, de procéder à une géolocalisation sans autorisation préalable. Dans la loi, il doit avoir une autorisation préalable du procureur. Donc là, il a la possibilité de le faire sans, mais sous condition que le procureur régularise la procédure sous 24 heures. Donc qu'il la régularise a posteriori.
T'as le droit de le faire, mais quand même, ils ont un droit de regard.
Ouais, c'est ça. En gros, imaginons dans l'urgence, faut que tu mettes une balise sous une voiture, tu le fais. Personne te dit rien, et après tu passes un petit coup de fil à ton pote le procureur, qui en général est quand même bien pote avec la police. Tu dis bon, tu me régularises tout ça, t'as 24 heures, et lui il signe un papier, il dit ok, c'est bon.
Yep.
S'il le fait pas, la procédure sera nulle et non avenue, comme on dit dans les termes juridiques. Et pour finir, ça comporte aussi la possibilité pour un inspecteur avec l'aval du procureur de s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé, donc ça comporte le domicile, de mettre ou d'enlever le dispositif GPS. Parce qu'il s'agit de les récupérer parce que ça coûte un peu cher tout ça. Voilà, en gros, le gouvernement propose une loi qui légalise les abus des flics puisqu'il leur donne une totale liberté sous caution du procureur qui est toujours très proche de l'appareil répressif. Le Sénat avait apporté quelques modifications au texte. Ils ont repoussé la possibilité de la procédure pour les infractions punies d'au moins 5 ans de prison. Ils ont réduit également la durée maximale de 15 à 8 jours et fait que le procureur devait régulariser la procédure sous 12 heures au lieu de 24 heures. L'Assemblée n'a pas du tout suivi les modifications du Sénat, ils sont tenus juste au texte de base et n'ont pas du tout pris en compte les avis de la CNIL. Bon, ça, de toute façon, traditionnellement, tout le monde en a un peu rien à foutre de ce qu'il raconte
là-bas. Là.
Mais quand même, je vais vous dire ce que préconisait la CNIL. Hein. Ils préconisaient une durée maximale de 8 jours avant qu'elle soit placée sous le contrôle d'un juge. Ça, c'est ce qu'avait suivi le Sénat.
que les utilisateurs non suspects d'un portable surveillé soient protégés. Ça, ça veut dire qu'en gros, si un portable sous le nom d'un trafiquant est utilisé par sa petite sœur, les données ne doivent pas être récupérées. Là, ni le Sénat ni l'Assemblée en ont pris compte. Concernant l'intrusion dans le domicile, la CNIL souhaitait juste que ça se passe sous l'autorité d'un juge et non du procureur. Et le seul avis que le Sénat et les députés, donc l'Assemblée, ont pris en compte, c'est...
Le truc qui justifie encore l'existence de cette commission.
Ouais, non, parce que là, c'est encore plus drôle. C'est que soit précis... Du coup, la CNIL, ils avaient demandé que ce soit précisé explicitement la protection de certaines professions exposées, comme les journalistes, donc pour protéger le secret des sources, les avocats et magistrats, ainsi que leur domicile, et bien sûr, les députés et sénateurs. Bon, alors là, pas de problème, ils étaient tous d'accord, hein, pas de débat, rien du tout. Alors, comment ça se passe en France quand le Sénat et l'Assemblée sont pas d'accord? Il y a une commission mixte qui est composée avec moitié sénateurs, moitié députés, et ils doivent trouver un accord. S'ils trouvent pas d'accord, c'est l'avis de l'Assemblée qui l'emporte. Bon, hier, ils sont rencontrés, ils ont dit bon, ils ont trouvé un accord, nous on sait pas ce que c'est, sur quoi ça se repose. Voilà, donc en gros, tout ça, ça concerne des enquêtes préliminaires, c'est-à-dire des personnes simplement suspectées qui seront suivies à la trace, comme avec comme seule condition qu'un OPJ et un procureur soient d'accord. On peut dire que c'est quand même vraiment léger comme cadre. Et par contre, ce que prévoit pas du tout la loi, c'est sur la géolocalisation, pardon, a posteriori, c'est-à-dire... En gros, soit ce que je disais tout à l'heure là, soit en demandant à un opérateur ses relevés d'antenne, des relevés qui gardent un an, il me semble. Donc, c'est-à-dire pour un délit qui s'est passé sur des personnes qui n'étaient pas surveillées, les flics peuvent aller voir l'opérateur et dire quel téléphone portable est passé dans cette zone et tout. Soit par une inspection par la police technique et scientifique du téléphone portable, la police technique et scientifique qui se trouve à Écully, juste à côté de chez nous. Mais alors ça, en général, ça leur donne accès à tout un tas d'autres informations, genre texto, puis pas que ça, là, enfin, avec les téléphones portables modernes, là, t'as quand même tout un tas d'informations, photos, journal intime, Et ça, rien ne prévoit que... Si tu l'écris sur ton téléphone, oui.
Ah bon, mais il n'y a pas...
Tu peux...
Un truc juste pour les journaux intimes, comme les députés.
Mais non, mais imagine, comme ça, ça se trouve... Ah, mais non, mais les députés, ils sont protégés, de toute façon.
Bah oui, bah, ça pourrait protéger les journaux intimes de tout le monde.
Et oui, bah non. Ça veut dire que peut-être un criminel comme ça, il dit « Ah putain, je m'en veux » et tout, bah ça pourrait... Non mais en tout cas, ce qu'on sait pas, c'est si les flics ils trouvent des photos compromettantes et tout, si ça va leur permettre, s'ils auront le droit d'ouvrir une autre enquête ou une autre procédure, ou s'ils sont mandatés juste pour ça, du coup il n'y a que ça qui peuvent leur servir, ça, la loi n'y répond pas.
Alors, je vais parler de l'Ukraine, puisque depuis hier, à Kiev, il y a grosse montée de pression. Donc les forces de sécurité ukrainiennes et les manifestants hostiles au pouvoir continuent encore dans l'après-midi à se faire face, et je pense encore à l'heure actuelle. Et les affrontements ont déjà fait 25 morts, dont 10 policiers, 241 blessés, dont 69 flics. Et voilà. Et donc la Russie ainsi que le gouvernement ukrainien dénoncent une tentative de coup d'État à Kiev, et l'Union européenne envisage des sanctions contre le pouvoir en place. Mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Donc beaucoup de bastons dans la journée de mardi, dans la nuit et aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la ville, elle est un peu dans une atmosphère de veillée d'armes dans le centre de Kiev. Y a d'un côté la police anti-émeute prête à continuer son assaut, et de l'autre, des opposants. Là, dans l'après-midi, les forces de sécurité avaient récupéré le trois quarts de la place de l'Indépendance, qui est l'épicentre de la contestation. Qui est en gros une sorte d'immense champ de bataille. Ils ont également détruit au moins 3 barricades qui avaient été mises en place. Donc il faut imaginer que mardi, en fait, cette place, elle était complètement occupée par des gens qui ont attaqué, quoi.
C'est là où il y avait les tentes et tout, là.
Ouais. et sur la partie de Maïdan, toujours occupée encore par le camp donc anti-gouvernemental. Donc pour donner l'ambiance, il y a des prêtres qui récitent des prières pendant qu'il y a des manifestants qui renforcent leurs boucliers et d'autres qui préparent des cocktails au Molotov. Donc ça, c'est une petite image pour dire que quand même les manifestants, c'est pas même s'ils sont très en colère, c'est quand même pas mal de gens de droite et d'extrême droite. Et le président donc Viktor Yanukovych a imputé ce mercredi la responsabilité de ces affrontements à certains manifestants qu'il a accusés d'avoir franchi les limites en se rendant sur la place de l'Indépendance avec des armes à feu. Et après avoir reçu dans la nuit les deux chefs de file de l'opposition, donc Vitali Klitschko et Arseniy Yatsenyuk, le chef...
Ils sont pénibles ces Ukrainiens quand même, c'est dur à dire.
Non mais j'aurais pu mieux me préparer. Le chef de l'État a appelé ces derniers à prendre leur distance avec les militants de l'organisation donc d'extrême droite, Pravski Sector, donc le secteur droite, qu'il a qualifié de criminels en les menaçant, dans le cas contraire, de changer de ton avec l'ensemble de l'opposition. Donc selon lui, il a toujours privilégié l'option pacifique face à ce qu'il qualifie de tentative de coup d'État, contre l'avis d'une partie de son entourage favorable à un durcissement, du coup de plus de répression encore. Les opposants de leur côté appelaient le pouvoir à retirer les forces de l'ordre des rues de la capitale pour permettre une désescalade de la situation. Et donc la Russie, dans tout ça, voit une tentative de coup d'État, donc elle appuie le gouvernement. Il y a le ministre russe des Affaires étrangères qui a fait tout un communiqué aujourd'hui, donc je vais vous faire juste une citation. Donc la partie russe exige que les leaders de l'opposition fassent cesser l'effusion de sang dans leur pays, reprennent sans délai le dialogue avec le pouvoir légitime, sans menace ni ultimatum. Donc il avait fait savoir mardi, la diplomatie russe avait fait savoir mardi qu'elle considérait le regain de violence à Kiev comme le résultat de la politique des Occidentaux, qu'elle accuse d'avoir soutenu l'opposition ukrainienne contre le pouvoir légitime. Et de son autre côté, vous voyez, j'ai l'impression de faire un peu la guerre froide. Donc là, hop,
l'URSS et ses pays satellites.
Et Washington dénonce des violences scandaleuses pendant que l'Allemagne et la France évoquent des sanctions. Donc M. Hollande a fixé trois objectifs face à la situation en Ukraine. Donc je cite, 1. Faire cesser le plus rapidement possible les violences. Deuxième objectif, définir des sanctions ciblées, spécifiques et graduelles pour peser sur le processus. Troisièmement, ouvrir un dialogue politique en Ukraine et avec également tous les pays concernés par la question ukrainienne. Autrement dit, surtout la Russie. Et bien évidemment, et bref. Donc l'Ukraine sera au menu d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne demain. Et le chef de la diplomatie polonaise a été désigné pour se rendre sur place au nom des Européens. Du coup, bon courage à lui. Quand même, c'est pas évident la situation.
Il y a du boulot.
Et le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a dit espérer que les États membres se mettent d'accord dans l'urgence sur des mesures ciblées contre les responsables de la violence. Voilà, voilà pour la situation en Ukraine ce mardi 19 février.
Et on va maintenant en Turquie qui vient de passer une nouvelle loi sur la censure sur Internet. Alors la Turquie, c'est un pays quand même où c'est très développé, il y a 33 millions de comptes Facebook. Bon, ceci dit, je dis ça parce que je l'ai pompé dans un article, mais je sais pas combien il y en a en France, mais j'imagine qu'il y en a moins, quand même largement. Du coup, une nouvelle loi qui renforce le contrôle d'Internet et qui vient d'être approuvée par le président turc Abdullah Gül, sous la pression de son premier ministre, le fameux Erdogan. L'autorité du coup des télécommunications qui s'appelle le TIB a désormais le pouvoir de bloquer l'accès à une page en 4 heures. Le ministre des Transports, des Affaires maritimes et de la Communication pourra lui aussi proposer directement des blocages. Ce texte autorise également le stockage des historiques de navigation des particuliers pendant 2 ans, rien que ça. Et c'est un niveau de censure du coup qui dans les textes semblerait assez proche de celui de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les plus grandes démocraties du monde. Bien sûr, il y a plein de petits trucs un peu plus ciblés comme ça dans le texte de loi qui ont l'air de principalement s'attaquer aux Kurdes et aux homosexuels, c'est très surprenant là-bas. Et il y a en plus de nombreux sites et plateformes, comme Vimeo par exemple, qui seront censurés au nom des atteintes à la vie privée. Alors l'atteinte à la vie privée, c'est l'argument avec un grand A qui est employé pour interdire tous les sites hébergeant des informations, enregistrements ou vidéos, qui notamment dénoncent la corruption qui touche jusqu'à la proche famille du Premier ministre Erdogan. Je vous rappelle qu'il y a des milliers de policiers... plus de 200 procs, je crois, qui ont été révoqués ou bien mutés depuis que les affaires de corruption ont éclaté au grand jour en décembre dernier. Du coup, ça avait éclaté avec l'arrestation d'hommes d'affaires et de fils de ministres qui y trempaient dans des affaires très louches. Au niveau de la progression du contrôle numérique en Turquie, eh ben, c'est assez flag, je vous fais un petit historique rapide. En 2002, il n'y avait qu'un seul site internet bloqué par le gouvernement turc. En 2006, il y en avait 4. En 2008, après une première loi répressive sur le sujet, il y en avait 835. En 2010, 1667. En 2012, il y a eu 8409 sites interdits après l'ajout de 138 mots obscènes à bannir, parmi lesquels jupe, blonde, belle-sœur, des prénoms féminins ou encore le mot interdit. Eh oui, il est interdit d'interdire en Turquie, c'est officiel, en tout cas sur le net. En 2013, on monte à 10 295 sites bloqués. Début janvier 2014, 35 038 sites bloqués. Et à la fin janvier 2014, on en est déjà à 40 733. Du coup, on peut dire que c'est une courbe qui ne va pas droit, mais qui accélère largement son accentuation. En réaction, du coup, il y a quand même un groupe de hackers, dont on a déjà parlé dans ce Canu Info plusieurs fois, qui a lancé une série d'attaques en déni de service. Et là, mon ami camarade et expert va vous expliquer à nouveau ce qu'est une attaque en déni de service.
Bon, alors si vous nous écoutez régulièrement... Vous devez savoir ce que c'est. En gros, c'est juste, c'est en déni de service, c'est dit aussi en attaque des DDoS. Et il s'agit de surcharger un site ou un serveur en faisant un maximum de connexions simultanées, ce qui a pour effet de faire crasher le site ou le serveur. En gros, c'est comme si, au lieu qu'il y ait, je sais pas, 3000 personnes ou 10 000 personnes qui se connectent sur un site, et ben là, il y en a des millions et des millions à l'aide de soit de logiciels, soit tout un tas d'autres trucs. Qui permet de faire crasher les serveurs.
C'est comme de prendre 20 points dans la gueule en même temps par 20 personnes.
Exactement.
Voilà, du coup, ce groupe, c'est ce qu'il a fait. Du coup, sur plusieurs services officiels, cette action a duré plusieurs jours, et du coup, c'est un peu comme une espèce de manif en ligne pour bloquer les flux, quoi. Et ça s'appelle les Red Hack, ces hackers qui ont également publié des listes de factures suspectes du ministère de l'Éducation, notamment, dénonçant des dépenses astronomiques qui montrent clairement un haut niveau de corruption, particulièrement des factures d'eau qui représentent un volume d'eau que personne peut consommer en vrai dans la vie. Et comme pour empêcher un peu les réactions, et ben l'État, lui, il a réagi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a les 5 responsables du collectif qui avaient mené la fronde antigouvernementale en juin dernier autour de la place Taksim, là, qui ont été condamnés le 6 février dernier à des peines, elles aussi, démesurées, puisque une personne a pris jusqu'à 29 ans de prison.
Et pour préciser, en Turquie, il y a une rumeur, alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais qui dit que Erdogan, il a aussi fait cette loi. Parce qu'il y a une rumeur comme quoi il y aurait une vidéo qui risquerait d'être mise en ligne où on verrait Erdogan participer à une orgie de sexe.
Oh, lui, lui, il aurait lui, l'islam modéré.
Oui, c'est ça. Alors, dans la rubrique Bande de cons, ça se passe à Villeurbanne et on parle du GIPN qui s'entraînait dans une maison abandonnée et qui est reparti en oubliant un robot vidéo miniaturisé et une lampe torche. Quand ils se sont rendus compte de leur connerie, ils sont retournés sur les lieux, sauf que les deux objets ont été dérobés. Alors bon, pour la lampe torche, c'est pas très grave, ça doit coûter une centaine d'euros, parce que bon, c'est peut-être un matériel un peu spécifique, ouais, c'est ça. Mais le robot caméra miniaturisé de la forme d'une canette qui a servi notamment pendant l'intervention de Mohamed Merah et qui est un peu de la haute technologie, coûte quand même la maudite somme de 20 000 euros.
Voilà. La boulette.
Ouais, c'est...
T'as pas de micro.
Ton micro est éteint.
Ah, je disais de la forme d'une canette.
Ouais, c'est ça, il l'appelle d'ailleurs la canette comme ça.
Ça veut dire qu'il a peut-être été piqué par quelqu'un qui comptait boire le robot.
C'est vrai que si c'est une canette de 8-6, c'est quand même blaireau.
Ouais, il devait être dégoûté. Bon, en même temps, il faut qu'il lise la presse parce que c'est un peu de partout, il se tape grave la honte, là, le JPN de Villeurbanne. Mais, enfin, de Villeurbanne de Lyon, là. Voilà, en plus, ça la fout quand même bien, bien mal pour un espèce de corps d'élite considéré comme tel, quoi. Et dans la rubrique braquage en tout genre, dans la matinée d'aujourd'hui, des braqueurs ont attaqué une bijouterie près de Paris, se sont fait remettre le contenu des vitrines pour une valeur de plus de 100 000 euros.
Bravo.
Bon, jusque-là, tout va bien. Ils repartent à bord de deux scooters en direction de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, où ils se planquent dans un appartement, sauf que la police les avait suivis et ont perdu leurs traces sur l'autoroute, mais ont quand même réussi à trouver leur planque. Ils ont alors cerné l'immeuble et ont interpellé un premier suspect qui était malheureusement à l'extérieur. Après plusieurs heures de négociations, les braqueurs retranchés dans leur appartement se sont finalement rendus. Des perquisitions sont en cours, mais pour l'instant, seule une kalachnikov, un gilet pare-balles et le présentoir des bijoux ont été retrouvés, mais pas de traces du butin. On espère qu'il est bien planqué et qu'ils pourront se faire plaisir à la sortie de prison si jamais ils doivent en passer par là. Gros coup de filet du côté des autorités espagnoles. 8 personnes se sont fait arrêter pour piratage en masse de distributeurs automatiques de billets avec l'aide de Skimmer, le petit appareil dont je vous ai déjà parlé, qui permet de récupérer toutes vos données bancaires sans que vous ne vous rendiez compte de rien du tout quand vous retirez de l'argent à un distributeur.
Mais en même temps, tout le monde se fait choper ces temps-ci avec cette technique là.
Ouais, mais parce qu'après, les gens, ils détournent des sommes de fous.
Ouais.
Si toi, tu le fais, tu détournes 5000 euros, t'as peu de chances de te faire attraper, quoi. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Parce qu'eux, ils ont quand même réussi à détourner au total près de 45 millions de dollars.
Ah ouais, d'accord.
Okay. À partir de là, oui, t'as plus de chances de te faire choper quand tu fais des trucs comme ça. Bon. Rien qu'en un mois, ils ont réussi à détourner 392 000 dollars avec l'aide de 446 cartes bleues falsifiées. Les autorités espagnoles ont réussi à mettre la main sur seulement 25 000 euros en liquide, des bijoux et 1000 cartes bancaires vierges. Une personne considérée comme étant à la tête du groupe a également été arrêtée en Allemagne et aurait avoué l'intrusion sur les serveurs de plusieurs sociétés de traitement de cartes de crédit dans le monde entier.
Alors, je vais parler de Calais, où il y a un peu la même situation sur des trucs qu'à Marseille. L'étincelle lancée par le maire de Calais avec son appel à la délation des squats sur Facebook en octobre dernier. Il y a également la page web Sauvons Calais et la poignée de main de deux adjoints à la mairie de Calais aux manifestants anti-migrants en novembre. Et donc cette étincelle s'est invitée à Coulogne sur fond de campagne électorale. Donc ce sont des militants de Sauvons Calais, avec un grand S à Sauvon, qui ont fait le siège devant un nouveau squat mardi. Et donc, là, ils font le siège devant une grande banderole sur laquelle ils se présentent comme des riverains qui sont dérangés par les migrants. Des coups de sonnette aux vrais riverains pour semer la peur d'une invasion de migrants. Et pourtant, pas les migrants dont ils parlaient dans cette maison, puisqu'ils ont tenté d'enfoncer la porte et finalement, les gens du squat ont ouvert et il s'avérait que c'était différents squatteurs de différents pays de l'Union européenne. Du coup, on peut-être, je sais pas trop, mais peut-être aussi des gens no border et tout ça, voyez, affiliés, etc. Et eux, ils en ont profité aussi pour casser plusieurs vélos devant le squat, crever les pneus, et voilà. Donc, ce qui remet le débat à sa place, on voit dans certaines manifs des pancartes où sont écrits « Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français ». Donc voilà.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. J'dégueule les lois mises en place. J'dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Et on commence, faut que ça sache, à Vincennes, puisqu'une émeute au centre de rétention a éclaté dans la nuit du jeudi 13 février à autour de 2h du matin. Du coup, c'était dans le CRA 1, le plus vieux bâtiment du CRA de Vincennes. Cette fois, ce serait suite à la tentative d'empêcher l'expulsion d'un retenu que des révoltés solidaires se sont barricadés dans leur baraquement et ont affronté les flics en leur lançant tout type de projectiles, extincteurs compris, ce qui fait un gros projectile. La réponse des flics, elle est simple. 23 équipages plus la BAC qui semble avoir été super violente. Et du coup, avec les quelques infos qui ont réussi à filtrer, il y aurait eu plusieurs retenus blessés, alors même qu'il n'y avait aucun personnel médical présent sur les lieux. La justice, ensuite, a condamné deux personnes à 2 mois de tôle pour avoir dégondé une porte, ce qui fait lourd pour ce genre d'action, et l'une d'entre elles à 2 mois de sursis supplémentaires puisqu'elle a refusé de donner son ADN. Le retenu dont le nom n'avait pas été annoncé d'ailleurs sur les fiches de vol, lui, et qui a été protégé par ses camarades, a été expulsé. Il y a plusieurs retenus à la suite de ça qui ont déclaré avoir entamé une grève de la faim. Le lendemain, le vendredi soir, il y a un feu d'artifice qui a salué et soutenu la lutte des détenus de la prison pour étrangers. Et forcément, ça ne s'est pas passé juste comme ça. 5 personnes ont été interpellées dans le bois de Vincennes en voiture. S'en est suivi une comparution devant le juge et il y a 2 mandats de dépôt à Fleury qui ont été déposés. Les 3 autres sont sous contrôle judiciaire avec interdiction de se voir et de quitter l'île de France. Alors ça, c'est la grande classique, surtout là-haut. Dès que tu fais un truc comme ça, là, tu peux plus voir tes potes et tu peux plus en même temps quitter l'île de France. Du coup, t'es enfermé au milieu de nulle part avec plus d'amis. Enfin, nulle part. Paris, oui, Paris, c'est pas nulle part. Et les chefs d'inculpation sont donc l'attroupement armé et masqué, le refus d'empreinte, enfin de don d'empreinte, de photos et d'ADN. Alors, en gros, affrontement armé et masqué, bon, ça veut sûrement dire qu'ils avaient une écharpe sur la gueule et armé, bon, bah, c'est encore pareil, peut-être qu'ils avaient un clou dans la poche. Refus d'empreinte et photos ADN, ça, c'est ce que, du coup, maintenant, ils mettent de manière systématique à tout le monde qui refuse justement de se faire ficher. Et du coup, ça leur permet toujours d'avoir une emprise juridique sur les personnes. Le juge a reporté le procès au 24 mars, au motif de doutes sur l'identité de certains et certaines des prévenus. Il y a une manif de soutien qui a eu lieu hier déjà à Barbès, et d'autres qui devraient être appelées dans les prochains temps.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Et maintenant, on va à Manus, c'est en Papouasie. Le 16 et 17 février, dimanche et lundi, donc, il y a une grosse révolte qui a éclaté au centre de rétention. Du coup, en Papouasie, ça enferme les migrants que l'Australie veut expulser. Des émeutes ont été violemment réprimées par les keufs et les agents de sécurité qui ont tué un migrant et blessé quand même 77 autres personnes, dont 13 grièvement. Cette révolte fait suite à la tentative d'évasion de 35 détenus dans la nuit du 16 février. Tous ont été arrêtés et une vingtaine d'entre eux blessés.
Faut que ça se sache.
Et on finit en France où le gouvernement vient de décider une augmentation des droits de scolarité dans les écoles publiques. Alors on vous dirait ça serait pas dans cette rubrique qu'il faut en parler, mais si, parce que du coup là c'est les écoles publiques d'ingénieurs et de l'institut Mines Télécom ainsi que 6 autres écoles nationales supérieures des mines. Les droits passeront à partir de l'année prochaine de 850 euros à 1850 euros pour les étudiants français ou originaires d'un État membre de l'Union Européenne. Mais par contre, ils passeront de 850 euros à 3850 euros pour les étudiants originaires des autres pays. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la politique du précédent gouvernement, puisque de toute façon, on l'a bien vu, ils s'aiment bien tout cela. Là. Et du coup, elle révèle d'une vision idéologique de l'université dans laquelle l'enseignement supérieur constitue un marché global et l'enseignement une marchandise comme une autre à laquelle les étudiants étrangers ne peuvent accéder, sauf s'ils ont beaucoup de thunes. Cette mesure institue une discrimination sans aucune justification dans l'accès à des établissements d'enseignement supérieur. Elle n'est sans doute que le premier pas d'ailleurs vers l'instauration de frais d'inscription plus élevés pour les étrangers, mais ça étendu à tout l'enseignement supérieur, puisque ça avait été déjà envisagé de manière décomplexée au cours du débat parlementaire sur l'immigration professionnelle et étudiante qui avait eu lieu en avril et juin 2013. Enfin, cette mesure, elle est aussi et surtout illégale. Elle introduit en effet entre les étudiants une discrimination exclusivement fondée sur la nationalité et qui ne peut s'appuyer sur aucune justification objective et rationnelle. Elle a donc été prise en violation du principe constitutionnel d'égalité et des conventions internationales, toujours leur titre, qui interdisent les discriminations. Du coup, eh bien, le Justi a déposé devant le Conseil d'État un recours en annulation contre ces mesures. Jones. Love's name was lost, a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is ill estate and I am the owner.
Quel temps va faire?
Quel temps va faire?
Quel temps fera-t-il demain?
Mais demain,
s'il te plaît.
Un peu les autres jours, peut-être. Dis-nous tout.
C'est bon, nous avons rétabli le problème technique sur Radio Canu. On va pouvoir passer à la météo. C'est n'importe quoi, ce soir, vraiment.
C'est qu'on n'a plus rien à dire, on est en avance.
Ouais, c'est ça, on a un quart d'heure pour faire des conneries et tout. Ça vous paraît être long après.
On pourrait raconter des blagues.
Ouais.
Non, pas trop, mec.
Non, on va se casser plus tôt.
Alors, bon, si vous êtes un auditeur ou une auditrice fidèle, eh ben, vous vous êtes rendu compte que les prévisions de Météo France étaient complètement bidons la semaine dernière. Bon, en l'occurrence, j'avais prévu de la pluie, il a fait beau temps, on va pas se plaindre non plus. Hein. Alors ce soir, j'ai décidé de continuer à vous raconter les conneries que Météo France nous dit. Demain, jeudi, le soleil fera son apparition dans la matinée, mais le ciel se chargera de nuages et laissera place à la pluie en début de soirée. Les températures iront de 5 degrés à 11 degrés au plus chaud dans l'après-midi. Vendredi, c'est exactement l'inverse de jeudi. De rares averses seront présentes dans la matinée, mais le soleil fera son apparition en début d'après-midi avec de belles éclaircies. Les températures, quant à elles, iront de 8 degrés le matin pour monter à 10 degrés l'après-midi, mais chuteront à 3 degrés dans la soirée. Prenez un duvet. Samedi, un temps mollasson s'installera dans la journée.
Mollasson ? Ah, qu'est-ce qu'un temps mollasson ?
Tu vas voir, c'est quelques éclaircies le matin, puis le ciel se couvrira l'après-midi, puis le soleil refera son apparition en fin d'après-midi, mais sera accompagné de pluies faibles. Voilà.
Ouais.
Pour un temps pas terrible.
Socialiste en quelque sorte.
Bon, puis en c'est plus, ça. J'ai même pas les températures parce que j'ai eu l'idée de les prendre. Alors on va passer à dimanche. Bon, les températures sont à peu près pareilles, quoi. 8-10 degrés, je pense.
Plus de duvet. C'est mollasson, quoi.
Ouais, c'est mollasson. Un espèce de parapluie, mais pas vraiment. Bon. Ouais.
Un écumoir.
Un truc à manger des crêpes, quoi. Voilà. Un temps à manger des crêpes. Mais dimanche, avec un indice de fiabilité de 4 sur 5, il est fort probable qu'on ait un dimanche bien ensoleillé avec des températures allant de 4 degrés le matin à 12 degrés l'après-midi. Et voilà. Ouais. J'ai fini.
Mais ouais.
Ouais, je vais pas plus loin parce que quand même,
ça rend la peine. Et il y a pas un petit peu de musique pour me lancer. Okay. Donc moi, je vais vous annoncer deux manifs samedi à faire. Donc vous aurez qu'à choisir. Donc si vous êtes sur Lyon, Il va y avoir un rassemblement sur la place de la Guillotière à 14h. Et ça, c'est un rassemblement contre les fascistes, parce qu'il y a eu dernièrement des agressions fascistes dont on a déjà parlé. Et donc, c'est un rassemblement de protestation et pour montrer la colère de personnes. Voilà.
Place du Pont, donc.
Place du Pont, 14h.
On n'a pas vraiment samedi. Pas les...
Ouais, d'autres gens dans les Canu Info, ils ont
je pense parlé. Il y a eu, en tout... bon, bah, on peut dire rapidement, il y a eu des personnes poignardées dans un quartier de Lyon, deux personnes antifascistes qui ont été poignardées par des fascistes.
Dans le quartier de Saint-Jean, comme de par hasard.
Voilà.
Et voilà.
Bref, donc deuxième manifestation, c'est un peu plus loin, mais ça vaut aussi le coup d'y aller, c'est à Notre-Dame-des-Landes. Donc on n'a plus besoin de présenter, donc ça sera aussi le 22 février, et par contre c'est à 13h à la préfecture de Nantes, ni travaux ni expulsion, l'aéroport c'est toujours non. Donc l'État et les pro-aéroports menacent de passer de nouveau en force. Ils prétendent débuter dans les mois qui viennent la destruction des espaces protégés et les chantiers de l'aéroport. Une nouvelle vague d'expulsion pourrait survenir. Nous ne les laisserons pas faire. Les travaux ne commenceront pas. Donc ça, c'est l'appel déterminé des personnes en lutte sur Notre-Dame. Sur place, le mouvement est plus vivant encore qu'à l'automne 2012, les liens plus denses, les champs plus cultivés et les habitants plus nombreux. Au-delà, plus de 200 communautés locaux se sont créées en solidarité avec la lutte et pour la faire et semer par chez eux. Du coup, donc voilà, la petite appel à cette grande manifestation.
En gros, si vous êtes plutôt à tendance écolo, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à la place du Pont si vous êtes de Lyon. Sinon, après, vous pouvez cramer du gasoil et vous rendre à Notre-Dame-des-Landes.
Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écume, poupée. Quand apprendras-tu à te poser? Ne me quitte pas, il paraît-il, déplacement fertile, donnant plus de blé qu'un meilleur. Un film, tu feras un domaine où tu seras reine, où tu